Le mariage, c'est une protection. C'est une protection affective, une protection aussi financière, une protection aussi sécuritaire. Toutes ces choses-là, ça te pousse à se marier. Quand on cherche à se marier, il faut regarder très loin et se dire que ce mariage-là, par ce mariage-là, il faut chercher la satisfaction dans le mariage.
Je te cache pas que moi, en n'étant pas mariée, j'arrive pas à comprendre de big deal autour du choix du conjoint. Est-ce que tu peux vraiment nous expliquer? En fait, on a l'impression que c'est limite 50% de la réussite du mariage. C'est ce que tu dis?
Oui, c'est même plus que ça. Le mariage, c'est comme si on était sur un bateau et qu'il fallait choisir, par exemple, la personne avec qui on veut traverser la mer. Nul doute qu'il faut choisir le meilleur compagnon. Parce que, en fait, dans la mer, on sait bien qu'il y a des moments où c'est calme, où il y a des petites vagues, et il y a des moments où c'est des tempêtes. Et quand il y a les tempêtes, il faut que la personne qui soit à nos côtés puisse garder le cap. Pour arriver au bout sur la terre ferme, il faut avoir une qualité. Et cette qualité-là, c'est le sacrifice pour l'autre. Et que ce soit du donnant-donnant.
Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah notre seul repère.
Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Ousmane, comment vas-tu?
Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Je vais bien, alhamdoulilah, et toi?
Je vais très bien et je suis très heureuse de te recevoir sur le Halal Love Podcast parce que on se connaît depuis longtemps et de me dire que on peut se retrouver autour de sujets qui touchent notre magnifique religion et partager cela à d'autres. J'en suis très émue, j'en suis ravie et je demande vraiment à la Sfatala de bénir cette assise et cette conversation.
Amen, ya Rabbi, inshallah, amen.
Alhamdoulilah. On va aborder aujourd'hui la question du mariage, évidemment, mais on va partir de la théorie à la vraie vie. Ce que j'aimerais, durant cette conversation, c'est qu'on puisse vraiment prendre le temps de voir ce que l'islam nous dit sur le mariage, de voir comment ça se passe dans la vraie vie, parce que toi, tu as eu un contact avec certaines personnes mariées, tu nous en parleras. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse cheminer pour voir où ça pêche et comment on peut faire mieux, Inch'Allah.
Inch'Allah, avec plaisir.
Bon. Avant qu'on commence, Ousmane, est-ce que tu peux brièvement te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
Ok, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wa salat wa salam ala rasulillah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alim al-hakim. Donc, je me présente, je m'appelle Ousmane Moussa. Je suis né dans les années 80, donc au début des années 80, dans un petit village de l'est de la France, dans les Vosges. Alhamdulillah, j'ai grandi dans un cadre très sain avec des parents et des frères et sœurs dans une famille très saine, avec un bon cadre et surtout le cadre islamique. Ensuite, j'ai fait mes études pour arriver en région parisienne, dans laquelle je vis actuellement. En fait, je me suis installé en région parisienne. Je suis ingénieur de formation et alhamdoulilah, Allah m'a comblé de la faveur d'avoir mémorisé, d'avoir entamé la mémorisation du Coran. Et de là, on a réussi à ouvrir un petit institut avec des élèves dans lequel on enseigne la langue arabe et le Coran. Sur ma situation matrimoniale, alhamdoulillah, je suis marié, j'ai des enfants grâce à Allah Azzawajal. Je suis ravi aussi, en fait, je réponds à tes premières paroles. Alhamdoulillah, je suis ravi aussi d'essayer de contribuer à ce que une partie de notre jeunesse ou même les plus grands en entendant ce podcast, puissent s'en servir pour leur choix de leur époux, pour avoir des conseils pour maintenir l'entente dans leur foyer.
Inch'Allah,
Inch'Allah.
Merci beaucoup. C'était super clair et j'aimerais rebondir immédiatement sur l'un de tes propos. Tu disais aider la jeunesse et même finalement les moins jeunes. Et pour moi, c'est super important parce que évidemment que nos cœurs sont de fait très attachés à nourrir la foi et les connaissances des moins jeunes. Mais force est de constater que nous aussi, en tant qu'adultes, on a besoin d'être nourris de ces connaissances-là, parce que parfois le manque de connaissances nous amène à prendre des décisions qui parfois peuvent nous faire du mal, malheureusement. Ousmane, moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est concernant les cérémonies religieuses que tu as célébrées, parce que tu as célébré de nombreux mariages. Et ma question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de célébrer des mariages? Parce qu'on fait tous des choses fisabilillah, vraiment des actes d'adoration surrogatoire, certains font de l'associatif, certains font du lavage mortuaire. Et toi, tu as voulu célébrer des unions. Pourquoi?
Alors, au départ, en fait, pour tout te dire, c'était plutôt dans un cadre de responsabilité, le fait que Allah m'a comblé d'avoir avancé un peu dans le dîn, et donc le fait aussi d'avoir été d'être enfin d'être imam dans de telle ou telle mosquée, fait d'avoir dirigé la prière dans plusieurs mosquées, fait qu'en fait on s'est tourné souvent vers moi pour me demander de célébrer. Pourquoi? Parce que les personnes avaient confiance en moi, etc. Et du coup, en fait, voilà, je me suis lancé pour aider ces personnes, parce que faut savoir qu'en France, c'est très difficile des fois de trouver une personne de confiance pour célébrer un mariage, même si la célébration n'est pas compliquée en elle-même. Mais c'est vrai que c'est une des difficultés que peut rencontrer des aspirants au mariage, quoi. Donc après, ensuite, je suis passé par plusieurs phases. Une phase où, quand j'ai commencé à entrer dans la célébration de mariage, tu passes des fois dans des mariages où c'est un peu carré, où il y a eu de la préparation, on sent que les futurs époux ont eu, pas une formation, mais ont pris le temps de se renseigner. Et puis des fois, tu arrives dans des mariages où c'est un peu le chaos, et en fait, ça te freine un peu. Tu te dis, mais pourquoi se marier dans ces conditions-là? Parce que c'est une des questions, c'est une des raisons pour laquelle il peut y avoir rapidement des difficultés, parce qu'il y a des choses qui ont été omises dès le départ, et c'est dramatique. Donc finalement, après, maintenant, je suis plus dans le choix. C'est-à-dire, si on me demande, je regarde vraiment les familles, si c'est des familles que je connais ou des personnes où je sais que c'est des personnes de confiance, j'accepte de célébrer. Si c'est des personnes que je connais pas, en général, je ne le fais plus.
Je te remercie pour ton avis et pour tes précisions qui étaient très utiles. Quand on a abordé la question des célébrations, tu as dit que voilà, dans certaines situations c'était carré et dans d'autres non. Avant d'aller creuser justement dans ces situations, c'était un peu plus compliqué. J'aimerais vraiment qu'on prenne le temps d'expliquer et de mentionner un peu quels sont les bienfaits du mariage qui ont été cités, mentionnés dans le Coran, dans la Sunna, parce que ça, c'est quelque chose que je m'étais engagée à faire auprès des personnes qui écoutent le podcast, mais moi, j'estime que j'ai pas suffisamment de science pour le faire toute seule. Donc, si tu pouvais nous lister ou un peu nous. Pas forcément, on n'est pas là pour faire une liste sans fin, mais nous réexpliquer un petit peu, faire un beau rappel sur pourquoi le mariage, c'est une belle chose. Je pense que ce serait très utile et très apprécié, Inch'Allah.
Alors, tout d'abord, en fait, le mariage, il faut savoir que c'est une adoration. Et quand on part de ce principe-là, si on le fait bien, on a une récompense. Donc du coup, si on aborde le mariage de cette manière-là, on va savoir que, puisque c'est une adoration, on va faire attention à ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, celui qui veut faire l'adoration de la prière, Ben, avant de faire la prière, il va essayer de savoir quelles sont les conditions pour faire la prière, comment faire la prière de manière correcte. Et ben, c'est la même chose pour le mariage. Quand tu sais que c'est le mariage, c'est une adoration, et ben, tu vas essayer de te renseigner avant. Donc, tu as des livres, tu as Internet, tu as des sites qui sont sérieux, ou tu as, comment dire, tu as des personnes autour de toi, par exemple l'imam, etc., de ta mosquée, qui peuvent te donner des informations sur quels sont les prérequis, quelles sont les conditions et comment réussir un mariage. Ensuite, dans le Coran, on a donc un verset dans Sourate Al-Baqarah où Allah Azzawajal dit que elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Pourquoi? C'est parce que le vêtement, on sait tous que c'est le vêtement, c'est ce qui recouvre et qui permet de protéger. Le mariage, c'est une protection. Donc, c'est une protection dans tous les sens du terme. C'est une protection affective, une protection aussi financière, une protection aussi sécuritaire. Donc, comment dire, ces choses-là, ça pousse à se marier. Ensuite, dans la sunna, on a le hadith où on a trois personnes qui était parti voir le professeur Salem, alors je donne en résumé pour pas être trop long, où il y en a une qui disait qu'elle allait jeûner, qu'elle allait prier toutes les nuits sans s'arrêter, c'est-à-dire toutes les nuits faire Qiyam al-Layl. Ensuite, il y a une autre personne qui affirmait aussi que voilà qu'elle allait jeûner tous les jours. Ensuite, on a une troisième personne qui a dit qu'elle allait donc rester célibataire, elle n'est jamais se marier. Le professeur Salman, en entendant ça, il les a interpellés, il leur a dit, ben, c'est vous qui dites ces choses-là. Ensuite, le professeur Salman, il les a réprimandés en leur disant, il les a repris, pardon, en disant que Allah, c'est lui qui craint plus Allah que nous tous. Et le fait que ce qui soit le plus. Le plus celui qui craignait plus Allah Azzawajal de toute la création de l'univers, eh ben ça lui donne une légitimité pour dire ce qu'il a à dire maintenant. Il dit que lui il jeûne et il interrompt son jeûne, c'est-à-dire il peut jeûner donc nous les jeûnes qui sont légiférés, c'est les jeûnes de jours blancs, donc les jours de pleine lune ou les jours de lundi et jeudi, etc. Donc en fait le prophète il ne jeûnait pas tout le temps. Donc, ensuite, il disait que lui, il se permettait de passer des nuits, une partie de la nuit à faire Qiyam al-Layl et une partie de la nuit à se reposer. Donc, ça, en opposition à ce que l'autre sahabi a dit. Et la troisième chose, il a dit que, et il épouse des femmes. Donc, le fait que le prophète sallam soit notre meilleur exemple, et soit une personne qui épouse des femmes, donc qui se marie, montre l'importance du mariage. Voilà. Après, je ne vais pas m'étaler dessus. Il faut juste savoir que quand on cherche à se marier, il faut regarder très loin et se dire que ce mariage-là, par ce mariage-là, il faut chercher la satisfaction dans le mariage. Voilà.
Je te remercie pour le hadith et l'aya que tu as mentionné, parce qu'en fait, tu vois, en t'écoutant, je ne peux que réaliser à quel point le mariage en islam, c'est pas Cendrillon, en fait. C'est-à-dire que il y a de l'affection, hein. Allah, il nous le dit, qu'il a mis entre nous de l'affection et de la rahma, mais on se marie vraiment, tu l'as très bien dit, pour voir plus loin, en fait. C'est un acte d'adoration. Et replacer les bienfaits du mariage dans ça, dans cet acte d'adoration et dans ce truc de... Tu vois, tu nous as pas... Comment on dit en anglais, t'as pas sugarcoat, t'as cité des choses très précises qui sont des très bonnes choses. Enfin, il n'y a pas mieux qu'un acte d'adoration. On est bien d'accord, il n'y a pas mieux. Et pour autant, on est en train de dire que malgré tout, le mariage, c'est un acte d'adoration, mais c'est avant tout un engagement, c'est quelque chose de sérieux. Bien sûr, il y a de l'amour, bien sûr, il y a de l'affection, mais revenons un petit peu aux bases. En tout cas, moi, c'est ce que m'inspire tes propos.
Exactement. Je rebondis aussi sur le fait que tu dises que c'est un engagement. C'est pareil pour toute adoration. En fait, quand tu adores Allah, ben tu t'engages à l'adorer de la meilleure manière, même si tu sais que tu peux avoir des manquements. Et par la suite de cette entrevue, on parlera un peu des manquements dans le mariage, inchallah.
Avant d'aller justement sur la pratique, pardon, j'aimerais qu'on aborde la question de la cérémonie d'un point de vue théorique. Parce que tu disais, voilà, tu peux te renseigner auprès de l'imam de ta mosquée, il y a des livres, etc. Moi, en tout cas, en recherchant sur Internet, ce que beaucoup d'entre nous font, j'ai pas trouvé un site en français bien référencé, parce que peut-être qu'il était sur les pages 3-4 de Google, je sais pas, mais qui permettait vraiment de se dire, si tu veux te marier religieusement, je viens de dire religieusement, voilà tout ce qu'il faut faire, voilà tout ce qu'il faut mettre en œuvre. Est-ce que toi, tu peux, voilà, aujourd'hui nous dire concrètement les conditions pour qu'un mariage religieux soit valide sont celles-ci, pour que vraiment on puisse vraiment repartir de cette conversation en se disant, voilà, j'ai quitté la conversation aujourd'hui, je sais quels sont les actes, les actions qui sont liées à une cérémonie religieuse validée par Allah subhanahu wa ta'ala et agréée par Allah subhanahu wa ta'ala.
Ok, bismillah. Donc en fait, pour parler des sites, moi je connais pas trop les sites français, puisque en apprenant l'arabe, on a accès à beaucoup plus de contenu. Mais je peux rappeler les conditions du mariage. Alors les conditions du mariage, ils sont au nombre de 5. Donc la première, c'est le fait d'être libre. Alors ça n'a pas trop une importance pour l'instant ici en temps présent. Pourquoi? Parce que à l'époque du prophète sallam, on sait qu'il y avait aussi des esclaves. Donc c'est une condition qui est très facile à remplir maintenant, de nos jours. La deuxième condition, c'est avoir toutes ses capacités, comment dire, mentales, c'est-à-dire être quelqu'un de pas quelqu'un qui est démuni, hein, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est malade. Mentalement, qui a des problèmes psychiques ou psychologiques. Ensuite, la troisième condition, c'est le fait d'être musulman et que la femme soit musulmane. Alors, je ne vais pas aborder le thème de la femme qui fait partie des gens du livre. Pourquoi? Parce que c'est assez compliqué. Et de nos jours, les gens du livre, ils sont très peu nombreux pour qu'on puisse aborder le sujet. C'est-à-dire les gens du livre, tel qu'il est mentionné au Coran, les gens qui adoraient Allah dans un monothéisme pur, mais selon la religion de Moussa alayhi salam ou de Isa alayhi salam. Donc Moussa, c'est le prophète comment dire, de la communauté juive, et Isa, c'est Jésus, le prophète de la communauté chrétienne. Donc ça, j'aborde pas ce fait-là. Donc les deux époux doivent être musulmans. Quatrième condition, ça revient un peu à la deuxième condition, c'est le fait d'être responsable. D'accord? Le fait d'être responsable, c'est-à-dire on peut pas demander à une personne qui est responsable, quelqu'un par exemple qui n'est pas capable d'assumer un foyer. De se marier. Ensuite, la cinquième, c'est le fait que il y ait aucune chose qui empêche le mariage. C'est-à-dire, par exemple, si la femme est enceinte, par exemple, parce que des fois, c'est ce qu'on peut rencontrer comme problème quand on célèbre un mariage, c'est que on a des époux, futurs époux, qui ont eu des rapports avant le mariage. Et donc de ce rapport-là, on s'ensuit une grossesse et ils cachent la grossesse et ils essaient de se marier avant que la grossesse soit comment dire visible. Donc ça, c'est une des conditions, une chose qui annule le mariage. Ensuite, une chose qui peut qui est un empêchement au mariage, c'est le fait de marier une femme dans sa période de viduité. Comme si une femme, elle a été divorcée ou un autre cas, hein. On peut pas la marier dans sa période de viduité. Ensuite, il y a aussi, par exemple, l'époux qui a déjà quatre épouses, par exemple. L'époux qui a quatre épouses, il peut pas se marier avec une cinquième épouse. Donc c'est la personne, elle lui est interdite. Donc et puis d'autres cas. Enfin, je pense que j'ai dit les cas les plus principaux.
J'aimerais juste, pardon, avant que tu poursuives, j'aimerais qu'on s'arrête sur le point 2 et le point 4, je crois.
Oui.
Le point 2, c'était sur la capacité mentale de la personne. Et le point 4, je crois, c'était sur la capacité financière de la personne. Je vais commencer par le point 4, du coup, tu m'excuses. Mais par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui sont jeunes, mais qui ont vraiment envie de bien faire les choses, qui n'ont pas envie d'avoir des rapports avant le mariage, qui ont envie de satisfaire Allah, qui mentalement sont matures pour se marier. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là, en fait? On leur dit de patienter jusqu'à financièrement ils soient prêts? Ou est-ce que si tes parents, par exemple, sont d'accord pour t'aider, est-ce que du coup ça permet justement de dire que si il est prêt parce qu'il est backupé par ses parents? C'est juste que je sais qu'il y a parfois des situations comme celle-ci. J'aimerais bien qu'on puisse apporter une réponse aux personnes qui sont concernées.
D'accord. Alors, moi, ce que je conseille, c'est que c'est de patienter. D'accord? Ben, on va voir aussi que un des gros problèmes dans le mariage, c'est la précipitation. Je pense que les personnes qui veulent se marier, elles doivent se mettre dans les meilleures conditions pour que leur mariage réussisse. Parce que si, certes, elle n'a pas un logement ou un endroit pour accueillir sa femme, c'est des sources de problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils vont choisir la belle famille, choisir ses parents. Et c'est pas les meilleures conditions pour apprendre à connaître sa femme et à apprendre à vivre une vie matrimoniale. Voilà. Ce que le professeur Salam il a conseillé déjeuner, il a conseillé par le jeûne de se protéger. Après, il y a plein de choses qui font que on a du mal à attendre, c'est parce que les futurs époux, ils communiquent trop ensemble. Donc, il y a les sentiments qui font qu'ils ont envie de se marier le plus tôt possible. Je dis pas qu'il faut pas se marier rapidement. Enfin, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui est, on dit, al-istirjal tout ce la précipitation, ça vient du Satan. Et tout ce qui est fait en prenant son temps, en prenant le temps de bien poser les choses, on regrette pas. Voilà. Donc, les jeunes qui veulent se marier, faites tout, trouvez, faites deux tafs pour essayer d'avoir plus d'argent. Voilà. Surtout, j'en profite pour encourager les jeunes garçons, parce que c'est eux, souvent, c'est la plupart, on va dire à 95%, c'est eux qui assument le foyer, parce que maintenant, les modèles de mariage ont un peu évolué. Les garçons, il faut qu'ils fassent tout pour mettre leur famille dans les meilleures conditions. Donc, si ça doit passer par le fait de faire deux boulots pour avoir un logement et pour assumer leur famille, il faut qu'ils le fassent. On a beaucoup de jeunes qui manquent de courage. Et si tu veux vraiment te marier, montre que tu veux te marier et fais-le par plusieurs en te mettant dans les meilleures conditions financières, je veux dire par là.
Ok, c'est un très beau rappel. Merci beaucoup, vraiment, Barakallahu fika, Ousmane, parce que j'avais à cœur d'éclaircir ce point. Et de ce que je retiens, c'est qu'il y a du juste milieu, en fait, dans ton propos. T'es pas en train de dire, ah bah, vous mariez pas. Attends d'avoir fini ton bac plus 8. C'est pas ça le propos, c'est de se dire, essaye d'attendre un peu, ne serait-ce que pour avoir un peu de visibilité. Et puis, donne-toi les moyens de ce que
Ouais,
je comprends,
c'est ça.
pour pouvoir avoir un mariage qui, sur le long terme, fonctionne.
Voilà, parce qu'en fait, la plupart des jeunes mariés, en fait, on est passé par là, c'est qu'on regarde que vraiment à 5 mètres, on n'a pas, on n'essaie pas de regarder très loin vers l'horizon. Et c'est ce qui amène des problèmes. Et ça, on en reparlera après dans la suite de l'entrevue. Il faut essayer de se poser les choses, et puis il faut essayer de s'entourer de personnes qui sont assez sages pour nous rappeler qu'en fait, il faut prendre son temps. Voilà.
Ok, vraiment Barakallahu fika. Je te laisse poursuivre.
Donc ensuite, on va parler des piliers du mariage, ils sont au nombre de 4. Donc une fois qu'on a répondu, comment dire, on respecte les 5 conditions du mariage, là on est apte à se marier du coup. Pour que le mariage soit valide, il faut que le premier pilier, il y ait la formulation. C'est-à-dire, en fait, que ce soit une formulation claire. C'est-à-dire, le jeune marié s'adresse au tuteur en lui disant, voilà, J'aimerais épouser votre fille, en disant de manière claire, est-ce que vous me donnez votre fille comme épouse, etc. Et le tuteur doit lui répondre de manière favorable. D'accord? Ça, c'est un appel à Sira. Deuxième pilier, c'est Al-Mahab, c'est la dot. Alors, la dot, elle est fixée, il faut savoir qu'elle est fixée par l'épouse. D'accord? C'est pas les parents ou les amis qui fixent cette dot. Alors, ce qui est demandé, c'est qu'elle soit pas trop énorme et qu'elle soit, on va dire, dans juste milieu, comme on l'a dit tout à l'heure. Après, c'est la femme qui décide. Donc, si elle veut mettre une dot importante, elle met une dot importante. Mais il faut qu'elle sache que celui à qui elle impose la dot, c'est son futur époux. Donc, faut qu'elle essaie comment dire, d'évaluer ce que le pou peut donner en dot. Voilà. Ensuite, la troisième condition, c'est les témoins. Les témoins, il faut qu'il y ait deux témoins musulmans, donc musulmans, et qui font la prière. Alors, je sais que des fois, c'est pas respecté parce que dans certaines familles, les gens ne font pas la prière, mais c'est deux témoins musulmans et qu'on peut attester que c'est des gens qui font la prière. Pour que
J'ai deux
le
questions là du coup.
comment?
Excuse-moi. J'ai deux questions, Ousmane, à ce niveau-là. Alors déjà, est-ce que c'est forcément des hommes ou ça peut être des hommes et des femmes? Et de deux, moi, j'avais cru entendre que les témoins étaient pas une, c'était pas une obligation. Du coup, je voulais savoir ce que t'en pensais ou peut-être que ça dépend des écoles, je sais pas trop. En
Non,
tout
non,
cas,
c'est
parce
une
que là, on est
obligation.
sur
C'est
les
une
écoles
obligation.
malikites
Oui,
depuis tout à l'heure parce que je pense
ouais,
qu'il faut quand même le
c'est
repréciser pour certaines
ça.
personnes.
Oui, c'est ça. On suit le rite maliki. Non, non, en fait, les témoins, ils font partie clairement des piliers. S'il n'y a pas de témoins, le mariage, il est caduc. Ensuite, pour en revenir à ta question, sur le rite maliki, normalement, c'est deux hommes. Je sais que dans d'autres madhahib, on peut avoir un homme et deux femmes. Voilà. Mais pour se mettre dans les meilleures conditions, il vaut mieux amener deux hommes musulmans qui font la salat. Comme ça, on n'a pas de doute sur
D'accord.
la validité de notre mariage.
Et c'est deux hommes de chaque côté, du coup? Excuse-moi, ou c'est un ou c'est juste
Non.
deux personnes pour juste témoigner que le
Non,
mariage,
juste
il
un
est OK?
témoin, c'est pas précisé de deux hommes de chaque côté, c'est pas précisé. Moi, j'ai pas vu dans les textes que ce soit une personne d'une famille, une personne de l'autre. Non, que ce soit deux personnes qui peuvent attester du mariage. Ensuite, la quatrième, alors je ne les ai pas forcément dites dans l'ordre, c'est le tuteur. Donc, une femme, elle ne peut pas se marier sans tuteur. Si il n'y a pas de tuteur, le mariage, il est caduc aussi. Voilà.
C'est très clair. C'est très clair et vraiment barakallahu fika à nouveau parce que jazakallahu khairan parce que c'est voilà, tu vois, je te parlais de la question des témoins, etc. C'est important, je pense, d'avoir vraiment un endroit, une conversation spéciale où on peut retrouver toutes ces informations parce que là, on est en train de parler de la validité du mariage. C'est pas une petite chose, quoi.
Ouais.
Je te remercie vraiment beaucoup ce là-dessus. Et bah, du coup, maintenant qu'on a bien balisé la théorie, on va pouvoir passer à la pratique et notamment à ton retour d'expérience. Est-ce que toi, globalement, quand tu venais marier des personnes, t'as senti qu'on était, d'une manière générale, suffisamment informés sur le mariage? À savoir, ben justement, tu as les conditions que tu viens d'énumérer, nos rôles, nos devoirs en tant qu'épouse et époux. Est-ce que ça, t'as senti quand même, quand tu célébrais des mariages, que parfois, il y avait un manque de connaissances là-dessus et que du coup, peut-être, ça allait amener des problématiques par la suite?
Oui, en fait, c'est ce qu'on remarque, on va dire, pour une bonne partie des mariages, c'est que les époux, ils sont dans un mariage sans avoir abordé, sans avoir cherché, comme je disais tout à l'heure, à savoir comment on fait cette adoration. C'est pour ça que j'ai tenu à dire que le mariage, c'est une adoration de base. Et donc, il y a des gens, ils se lancent dans un mariage sans vraiment savoir quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs, etc. Après, pour réussir un mariage, il faut pas forcément être un théologien. C'est pas ça. On a des principes de base. On a des principes de base, ce qui sont les devoirs et les droits de chacun. Et puis, ce qui est frappant, c'est quoi? C'est le pourquoi ils se marient. Pourquoi ils se marient? Ils se marient parce que ils se sont fréquentés, ils se sont aimés, ils s'apprécient, ou ils se marient pour aller plus loin, pour voir plus loin, fonder un foyer, passer toute leur vie ensemble, se protéger, voilà, comme un projet en fait. Et on voit beaucoup que dans certains mariages, il n'y a pas eu en fait la notion de projet, parce qu'un mariage c'est vraiment un projet. C'est quelque chose qui se monte et puis qui évolue dans le temps. Une question qu'on peut poser à certains jeunes mariés, tu te vois comment dans 5 ans ou dans 10 ans? Et là, en fait, tu vois que la plupart des jeunes, des jeunes ou d'autres personnes, hein, ils n'arrivent pas à répondre à ces questions-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont vu que l'instant présent ou l'instant, comment dire, ils ont vu que l'avenir proche. Et pour réussir un mariage, il faut essayer de regarder un peu plus loin. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, il y a certaines épreuves, si on n'en a pas parlé avant, bah, c'est compliqué à y faire face, quoi. Voilà.
Ok, d'accord. Et comment tu le sens? Parce que, enfin, pardon, mais t'as quand même dit une bonne partie. Et du coup, moi, ça m'a frappé, quoi, d'entendre qu'une bonne partie des mariages que t'as célébrés, t'as senti qu'il n'y avait pas cette préparation-là. Comment toi, t'as pu sentir? Est-ce que tu discutes avec les gens avant? Et donc, du coup, tu te rends compte que t'as pas les réponses aux questions que tu poses? Ou est-ce que c'est quand tu viens marier des personnes, tu le sens? Je sais pas.
Non, alors moi, ce que j'impose, c'est que quand on me sollicite pour faire un mariage, je reçois dans mon bureau, je reçois les futurs époux dans le bureau pour voir à peu près jauger en fait quelle est leur comment dire leur implication et quelle est leur sérieuxité. Et c'est à ce moment-là que je vois que en fait il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été évoquées ensemble, qui n'ont pas évoquées et ensuite, eh ben, malheureusement, c'est des choses dont on qui créent des problèmes après le mariage, quoi. Comme je me le fais de se dire, eh ben, comment on voit l'éducation des enfants, comment tu veux, quelle est ta spiritualité? Parce que on est confronté des fois à des mariages où les époux n'ont pas la même vitesse dans la spiritualité, ça fait que ça fait des frictions en fait, parce que soit c'est la femme qui avance plus vite et l'autre l'homme il fait rien, ou l'homme il est dans la spiritualité et la femme n'est pas, donc ça amène beaucoup de tensions. Voilà, en gros, c'est surtout avant de célébrer le mariage qu'on voit ça. Après, pendant le mariage, en général, il y a la cérémonie, les choses sont déjà faites, donc on peut pas intervenir, on peut pas vraiment se poser des questions. Parce que enfin, les dés sont jetés, quoi.
Ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est pour ça que je te demandais, parce que je me disais, mais comment tu fais pour savoir quand tu arrives? Et en fait, non, c'est que t'as un entretien avant quand même. Et si tu estimes qu'il n'y a pas de. Ça manque enfin, j'allais dire de sérieusité, mais en tout cas de solidité dans les réponses, eh bien là, tu peux te dire, bah non, là, j'y vais pas, ou
Voilà.
réfléchissez à ces questions, revenez me voir.
Voilà, exactement. C'est
Ok.
exactement ce que je fais. C'est que si j'estime qu'il n'y a pas eu assez de réflexion, ou il n'y a pas eu. Ils n'ont pas abordé comment dire, ben, comme l'éducation des enfants, leur projet dans 5 ans, dans 10 ans, comment ils se voient, je préfère comme je dis, je préfère pas entrer dans cette célébration-là. Je préfère pas le faire.
Ok, d'accord. Eh bien, à présent, Ousmane, j'aimerais qu'on parle de. On va rentrer dans le vif du sujet, parce que on va parler du mariage en soi, parce que c'est une chose de se marier, mais c'est une chose de le rester. Et je pense que rares sont les personnes, très très rares sont les personnes qui se marient en se disant, ah ben, je me marie, mais que pour un mois, je suis en CDD, et après je vais ressortir. Je pense que le mariage, c'est une épreuve, de ce que j'entends. Pour même les plus vaillants, en fait, et même pour ceux qui donnent tout et qui ont compris que c'était un acte d'adoration. Mais qu'est-ce qui fait, selon toi, que le mariage soit devenu une si grande épreuve. J'ai devenu parce que j'ai quand même l'impression que ça a évolué. Peut-être que tu me donneras ton avis aussi sur la question, parce que pour le coup, toi, t'es mariée depuis quelques années aussi maintenant. Je pense que tu as vu des gens se marier autour de toi. Et j'ai le sentiment que la vision du mariage, la durée du mariage évolue. Et j'ai l'impression que c'est très difficile pour tout le monde et que c'est plus difficile maintenant. Qu'est-ce que tu en penses et pourquoi, selon toi?
Ce que je voulais déjà évoquer, c'est le choix. Le choix de l'époux et l'épouse. En fait, c'est vraiment la base. Et à partir de ce moment-là, en fait, si on n'a pas bien choisi le partenaire, on va être confronté à des choses, plein de surprises, qui font que soit on a les épaules, on a la patience, on a quelqu'un de patient pour pouvoir supporter ces épreuves-là, soit comme la plupart des gens maintenant ont peu de patience et préfèrent passer à autre chose.
Oui. Excuse-moi, mais c'est vrai, t'as tout à fait raison. La question du choix du conjoint était abordée avant de rentrer dans le mariage, et t'as raison du coup de réinsister, de revenir dessus, parce que moi ça c'est un point que tu as très souvent souligné, et là tu vois je l'ai oublié, tu m'as redit que le choix du conjoint était très important. Donc j'ai quand même le sentiment qu'il faut qu'on s'arrête dessus, mais je te cache pas que moi, en n'étant pas mariée, j'arrive pas à comprendre the big deal autour du choix du conjoint. Est-ce que tu peux vraiment nous expliquer? En fait, on a l'impression que c'est limite 50% de la réussite du mariage, c'est ce que tu dis?
Oui, c'est même plus que ça. Pourquoi?
Ah, d'accord, ok.
Je peux pas évaluer le pourcentage, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si une personne de base, elle ne nous correspond pas, comment ça peut fonctionner? C'est ça la première chose. Ensuite, pour pouvoir choisir accepter une demande de mariage, il faut savoir ce qu'on veut déjà. Et c'est déjà la première question qu'il faut se poser pour tous ceux qui veulent se marier. C'est déjà connaître soi-même. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on voit l'avenir avec son époux? Comment on voit l'éducation des enfants? Où on se voit vivre? Est-ce qu'on veut vivre en France? Est-ce qu'on veut faire rentrer en Afrique? C'est toutes des questions. C'est des questions qui sont super importantes. Pourquoi? Parce que c'est là où, dans l'évolution du mariage, par exemple, un époux, il a toujours voulu vivre à l'étranger, enfin revenir dans une terre d'islam, par exemple. Si la femme, elle n'est pas prédisposée à ça, ça va casser. Pourquoi? Parce que même si elle finit par céder, par y aller, elle va être tellement malheureuse que le mariage, il va se transformer en enfer là où elle sera. Et c'est pas le but du mariage. Le but du mariage, comme je dis, c'est comme si on était sur un bateau. Le mariage, c'est comme si on était sur un bateau et qu'il fallait choisir, par exemple, avant de monter dans le bateau, la personne avec qui on veut traverser la mer. Donc, nul doute qu'il faut choisir le meilleur compagnon. Parce que, en fait, dans la mer, on sait bien qu'il y a des moments où c'est calme, où il y a des petites vagues, et il y a des moments où c'est des tempêtes. Et quand il y a les tempêtes, il faut que la personne qui soit à nos côtés puisse garder le cap pour arriver au bout sur la terre ferme. Donc voilà, il faut déjà se connaître, se dire voilà, qu'est-ce que je veux. Ensuite, où je vais. Ensuite, par rapport à ce qu'on veut, il faut ici arrêter de mettre l'accent sur les choses qui sont futiles. On a beaucoup de femmes qui se bloquent sur le physique. Alors, je sais que c'est très important, mais il n'y a pas que ça. On a aussi des hommes aussi qui sont pareils, qui se bloquent sur le physique. C'est une grande partie du mariage, parce que c'est vrai que c'est quelque chose. On va rentrer dans une intimité quand on est marié, mais il ne faut pas voir que ça. En fait, pour faire un bon choix, le bon choix, il faut, à l'aide d'une balance, peser tous les pour et les contre, tout ce qui permet, qui peut me dire, ça me donne envie de marier lui. Pourquoi? Parce que il est comme ça, même s'il n'est pas ça. Parce que les personnes exemple de défaut, ça n'existe pas. Donc, c'est comme ça qu'on doit voir pour le choix. Dire, cette personne, elle a ça, elle est comme ça, mais en contrario, elle est comme ça. Est-ce que, quand on pèse, ça me donne plus envie d'y aller ou pas? Ça, c'est pour vraiment pouvoir se marier. Parce que si on se garde, par exemple, pour beaucoup de personnes, ils se disent, bon, voilà, j'ai tel critère et je suis inflexible dessus, ben, ça mène à des personnes qui ne se marient jamais, finalement. Parce qu'en fait, on n'arrive pas, c'est impossible de trouver quelqu'un qui répond à tous nos critères. Voilà.
Ah là, je crois que tu as donné beaucoup à méditer. Là, c'était très très intéressant, c'était très dense. Merci beaucoup pour cette métaphore du bateau parce que bah, ça dit tout quoi. Effectivement, tu vois, là tu projettes la personne dans un bateau et là tout de suite tu dis alors déjà, est-ce que j'ai le mal de mer ou pas? Comment moi je réagis déjà aux vagues, etc. Tu es obligé de te sonder toi et c'est ce que tu disais. Et pour avoir justement un compagnon avec qui tu vas pouvoir. Lui aussi lui dire, tu sais, moi je suis comme ça, parce qu'en fait, ça aussi c'est un point que je voulais aborder, c'est que très souvent on se dit, attention, il faut que tu vérifies que ton compagnon soit comme ci ou que ta compagne soit comme ça, mais en fait, on se check pas des masses, en fait, au final, c'est toujours, t'as vérifié s'il avait ça, t'as vérifié s'il était comme ci, mais nous aussi, il faut qu'on s'auto-check, c'est important de voir si on est des, c'est un peu le mot du moment. Wifey material ou husband material, c'est est-ce qu'on a le matériel pour être vraiment une bonne épouse ou est-ce qu'on a ce qu'il faut pour être un bon époux quoi. Donc vraiment, je te remercie parce que c'était très très précieux et ça donne aussi tu mets l'emphase sur quelque chose qu'on a déjà dit, mais c'est bien du coup de le rappeler, c'est que il y a beaucoup de raisons dans le choix marital. L'amour, l'attirance physique, tout ça, c'est ok. On n'a pas dit qu'il fallait pas avoir ça, mettre ça justement dans cette balance dont tu parlais, mais attention à l'intensité du poids en fait. Je crois que c'est un peu ça finalement. Faut pas mettre trop de poids là-dessus.
Oui, et surtout, la meilleure personne qui peut peser, c'est la personne en elle-même. C'est-à-dire, par exemple, la beauté ne pèse pas la même chose entre deux personnes. Il y a des personnes qui vont plus accentuer sur la beauté, d'autres non. L'autre, c'est plutôt la situation financière, l'autre, c'est plutôt la religiosité de la personne. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien en fait, se connaître et voir comment on veut vivre ce mariage. Et à partir de ce moment-là, on peut mettre des jalons. Voilà, je veux ça, je veux ça. Par contre, là, je sais que je suis un peu flexible là-dessus. Là, je suis inflexible là-dessus. Et ensuite, ce qui serait bien aussi, en fait, nous, afin que nos parce qu'en bientôt, nos enfants ils vont être amenés à se marier aussi, qu'il
Inch'Allah.
faut, c'est, Inch'Allah, c'est que nous, déjà, dans le dialogue avec nos enfants, il faut qu'on les prépare au mariage. Et les préparer au mariage, c'est-à-dire leur donner comment dire, les bons conseils pour qu'ils soient les plus, comment dire, on va dire, entre guillemets, mariables, je ne sais pas si on peut se dire, mais
Ouais, c'est ça. Ah, on s'entend.
c'est-à-dire être les plus complètes pour pouvoir, en fait, réussir le mariage et pour que l'époux ou l'épouse soit satisfait de l'autre pour aussi être un exemple pour l'autre. Parce que on voit aussi dans le mariage, c'est que des fois, comme je disais, en fait, les deux époux sont pas à la même vitesse. Donc, il faut que celui qui est devant montre l'exemple à l'autre, tout en ayant l'indulgence qu'ils sont pas à la même vitesse et que c'est un voyage ensemble. Il faut s'entraider.
Mais tu vois, pour moi, c'est exactement pour ça que le mariage, même si tu arrives avec une bonne volonté, c'est difficile. Dans le sens où, tu vois, faut être inflexible sur certains points, mais quand même, il faut être souple, parce que sinon, tu vas rester célibataire toute ta vie. Il faut pouvoir avancer dans sa religion, mais si ton époux ou ton épouse, elle n'est pas au même rythme que toi, il faut avoir de l'indulgence. Je dis pas que c'est mal, hein, ce que tu as dit, je trouve ça très bien. Mais juste qu'en fait, j'ai l'impression que ce qui rend le mariage difficile, la recherche et le mariage difficile, c'est que c'est vraiment. C'est un jeu d'équilibriste, en fait. Faut être très subtil. Vraiment, faut être très très subtil et il faut à chaque fois se dire, ah là j'en ai trop mis, là j'en ai pas mis assez. J'ai l'impression que c'est ça qui rend le mariage difficile, non?
Oui, et ce qu'il faut après, c'est définir dans son, dans, comme je disais, quand on apprend à se connaître, définir les conditions de base sur lesquelles on va pas déroger. Non,
Il faut pas qu'il y en ait beaucoup
le
aussi,
fait,
je pense.
moi, je dis conseil à toute sœur de se marier avec une personne qui ne ferait pas la salat. Si quelqu'un ne fait pas la prière, comment on peut, si en fait il respecte pas le fait de faire la salade, comment on peut espérer de lui qu'il nous respecte? Ah, je dis pas que ceux qui ne font pas la salade sont pas respectueux, je sais pas ce que j'ai voulu dire. C'est quelqu'un qui crée un minimum Allah Azzawajal, il fait la salade, Et ben, il y a des choses qui ne fera pas. Et nous, dans les mariages, on a été amené à faire de la médiation. Souvent, l'homme ne faisait pas la salat ou la femme ne faisait pas la salat. Donc, c'est des choses qui sont graves, en fait. Comment on veut que Allah il soit avec nous dans notre réunion et qu'il nous aide à traverser les épreuves, si déjà à la base, on ne le fait pas. C'est ces choses. Et en fait, on verra que la plupart des problèmes, ils viennent à des manquements. Des manquements de base. Voilà.
C'est super intéressant ce que tu dis, Ousmane, parce que j'ai interviewé Farida Kasset, qui est une psychologue, et en fait, lors de la conversation, elle a dit une chose, c'est que souvent, en fait, les personnes, quand ils viennent la voir dans son cabinet, c'est rarement lié à des problèmes religieux. Mais moi, j'étais un peu... en tout cas, ça m'a questionnée, parce que je me suis dit, mais je suis... Enfin, je suis pas certaine, mais j'avais quand même... Je pensais fortement que, quelque part, quand ton aspiration vers Allah, elle est là, tu es quand même plus à même de faire des efforts et de limiter un petit peu la casse. Et je dis pas que si tu as des problèmes de couple, c'est que tu n'es pas ancré dans ta foi, c'est pas tout ce que je dis, mais j'ai quand même l'impression que ce que tu dis, et je te rejoins là-dessus, c'est que quand même ça peut clairement t'aider comment dire, à pas rencontrer certaines problématiques qui t'emmènent derrière à aller voir, à aller faire de la médiation auprès d'un imam comme toi, tu as pu le voir en fait.
Oui, je dis surtout ça, pourquoi? Parce qu'en fait, une personne qui craint un minimum à Allah, je dis pas comme tu as dit, tu l'as bien souligné, c'est pas le fait que tu sois religieux qui fait que tu vas faire que ton mariage fonctionne. Comme j'ai dit au départ, il y a la religiosité, mais surtout la compatibilité. On peut
Oui.
avoir deux personnes qui sont très avancées dans le dîn, mais qui ne sont pas compatibles et qui, même s'ils se marient ensemble, ça ne marcherait pas. C'est la compatibilité. Ensuite, pourquoi je dis la religion, enfin, le fait d'être dans un minimum dans le dîn? Parce que la personne qui est dans le dîn, elle va respecter l'autre personne. Déjà, elle va essayer de pas insulter, entrer dans des insultes, dans des injures, etc. Ni dans la violence, et ni dans ces choses-là. Ni dans les pressions psychologiques qui font que, ben, le mariage, il se transforme en enfer. Voilà. Alors que, c'est la base, c'est la base. Et tout le monde sait que si par exemple il y a un grand respect entre les époux, ben c'est beaucoup plus facile pour résoudre les problèmes.
Ah, évidemment, évidemment. Et là où je te rejoins par rapport à l'ancrage dans son cheminement religieux et l'ancrage de sa foi, c'est que en fait, ça permet de pas rester dans une relation bidirectionnelle. C'est-à-dire que je fais ça parce que je t'aime, tu fais ça parce que tu m'aimes. Ouais, mais en fait, le jour où vous aimez plus, vous vous respectez plus, vous parlez plus bien, alors qu'en fait, quand tu rentres dans une relation triangulaire avec Allah, si la personne elle faillit un peu à son engagement ou si t'es un peu agacé contre elle pour une raison ou pour une autre, tu vas te dire ben Merlish, parce que Allah, bah lui, il faillit jamais à son engagement. Moi, je fais ça pour Allah. Quand je respecte mon épouse ou quand je respecte mon époux, je le fais parce que je crains Allah. Et ça, je veux dire, je suis tenue d'avoir cet engagement-là avec Allah et ça faillit pas en fait.
D'où la notion de départ, le fait que c'est une adoration. Voilà.
Exactement.
Ça revient à tout ça. Ce qu'il faut, c'est se préparer, comme tu avais dit tout à l'heure, il faut se préparer, il faut se donner les moyens d'être dans les meilleures conditions pour réussir les mariages. C'est la base.
Alhamdoulilah. Bah, merci beaucoup pour cette précision. Est-ce que du coup tu souhaites qu'on revienne juste sur les différentes épreuves qu'on peut rencontrer quand on est marié et quelles sont les solutions qu'on peut apporter? Encore une fois, toi, du fait de ton expérience, tu as été une personne qu'on sollicite pour faire de la médiation. Tu es marié depuis plusieurs années maintenant, alhamdoulilah. Quelles sont selon toi les erreurs, bon, des erreurs, on en fait tout ça, hein, on n'est pas là pour blâmer, hein, on est des êtres humains, mais quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu as pu constater et quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter?
Une des erreurs qu'on rencontre le plus souvent, c'est quand les personnes se marient, ils idéalisent le mariage en s'imaginant que le mariage n'aura pas de problème, même s'il y a, parce qu'il y a beaucoup d'amour entre les époux. Et ils n'arrivent pas à accepter qu'il y ait des épreuves. Ça, c'est une
C'est
chose
hyper
qu'on...
intéressant ça.
Ouais.
Ils n'arrivent pas à accepter, en fait, ils n'arrivent pas à accepter que ce soit pas que le mariage ne soit pas un long fleuve tranquille ou que ce soit pas
Voilà.
parfait. C'est
Ça
ça que tu
revient
dis.
à ce qu'on
D'accord.
a on parlait avant de commencer l'entrevue, c'est que si, si t'es pas dans ta tête, t'es pas préparé psychologiquement en te disant que ben Allah il va t'éprouver dans toute chose et dans les choses parmi ces choses-là le mariage, ben tu vas avoir du mal à rester marié. Pourquoi? Parce que si tu n'acceptes pas l'épreuve, tu vas jamais réussir à réussir l'épreuve. La première chose pour réussir une épreuve, quelle qu'elle soit, que ce soit une maladie, la peur d'un proche, la perte d'un moyen financier, etc., ou n'importe quel. Si on n'accepte pas l'épreuve, on n'a pas. Il faut se dire qu'elle vient d'Allah, cette épreuve. Et que Allah, dans cette épreuve-là, il veut nous qu'on se rapproche de lui et voir comment on se comporte. Donc il y a des personnes qui vont complètement déprimer et se dire, ouais, en fait, finalement, t'es pas comme je pensais, etc. Finalement, ce mariage, c'est la défaite, etc., etc. Non. Certes, il y a un problème. Il y a des manières comment dire, d'aborder le problème. Première chose, c'est ne pas se précipiter, prendre le temps de comprendre ce qui se passe et prendre le temps de surtout communiquer. Voilà, c'est quelque chose qui est super important, la communication. Et un autre problème qu'on trouve aussi dans les couples, c'est l'égoïsme. L'égoïsme, en fait, l'homme, je parle plutôt pour les hommes, hein, parce que l'homme de base, il est plus égoïste que la femme. Donc, en fait, il va gérer son mariage comme si tout était tourné autour de lui.
Ouais,
Donc,
moi j'ai tendance à dire ils sont auto-centrés. Alors c'est
voilà.
pas pour jouer sur les mots, mais en fait c'est que je trouve que parce que la notion d'égoïsme c'est un truc de ouais j'ai bien conscience que je pense qu'à moi et ça me dérange pas des masses. Quelqu'un d'auto-centré c'est quelqu'un qui se voit d'abord lui en fait. Et il faut lui dire tu sais qu'il y a du monde autour et que tout ne tourne pas autour de toi. Et après éventuellement il te dit oui bah ça me oui j'ai bien compris qu'il y avait du monde mais ça m'intéresse pas trop et donc tu deviens un peu égoïste ou soit tu te dis ah excuse-moi j'ai naturellement je suis auto-centré quoi.
Oui, c'est peut-être plutôt ça. Ouais. Donc certaines personnes, ça va vers l'égoïsme, mais d'autres personnes, c'est dans le degré le plus faible de l'égoïsme. Ouais. Donc oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi
Attends, alors juste par contre, on n'a pas dit c'était quoi la conséquence de l'égoïsme. Parce que t'as parlé de l'égoïsme, mais tu vois, moi j'aurais jamais pensé que c'était un. Enfin, si, je sais, parce que on nous dit qu'on est dans des sociétés très individualistes, etc. Un peu de consommation, de qu'est-ce que tu fais pour moi, qu'est-ce que tu m'apportes, et si tu m'apportes pas, eh ben, j'ai plus envie de partir que de rester, ça c'est clair. Et c'est un peu ce que tu dis, c'est ça? C'est ça la conséquence de l'égoïsme?
C'est peut-être un peu ça, mais c'est plutôt dans le fait que la personne, elle va pas, comme elle est auto-centrée, comme je dis, eh ben, elle va pas faire attention aux attentes de l'autre. C'est surtout dans ce sens-là. C'est-à-dire, en fait, comme elle regarde qu'elle-même, eh ben, le fait que l'autre personne elle ait besoin d'échanger sur tel ou tel sujet ou elle a telle ou telle difficulté, eh ben, en fait, ça va pas le toucher. Ça va pas le toucher. Et donc, ce qui fait, c'est que la femme, elle peut se sentir délaissée. Après, il y a d'autres choses qui reviennent souvent quand on fait de la médiation. C'est le fait que, le fait que certains hommes ne sont pas responsables. Et comme je disais, pour revenir à la parole tout à l'heure de la perte des jeunes personnes qui veulent se marier sans avoir vraiment un endroit pour accueillir. Leur famille et sans avoir de travail, ben on est souvent confronté à ça. C'est que on a un mari qui accepte de dépenser, mais que pour lui, pas pour sa famille. Donc, c'est un grand manque de responsabilité de la part des hommes. Ensuite, on a aussi du côté des femmes qui vont toujours regarder comment leurs amis sont. Et elles vont essayer de calquer leur vie, la vie des autres à la leur. Donc, ça amène beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que personne ne sait ce qui se passe dans un couple si on n'est pas dans le couple. C'est-à-dire,
Exactement.
on va trouver des personnes qui vont dire, ah, regarde, eux, ils sont heureux, etc. Mais on ne sait pas la réalité de leur couple.
Ouais.
Donc, ça, c'est une grosse erreur à éviter. C'est qu'il faut se concentrer plutôt sur sa vie. Et son couple plutôt qu'essayer de se comparer aux autres et se concentrer sur ce qu'on peut faire pour améliorer sa vie de couple et tout. Voilà, donc après, si on veut continuer dans les erreurs et ce qu'il faut plutôt faire, c'est quand même toujours essayer de se trouver garder un moment pour le couple. Je dis ça, c'est quand on commence à avoir des enfants. Quand on commence à avoir des enfants, ben forcément, le temps il est partagé par les enfants. Et du coup, on se retrouve avec un couple qui n'a pratiquement plus de temps pour soi. Donc, ce que je conseille aux gens, c'est que il faut toujours essayer de se garder un moment où on va rester en tête à tête avec son mari, que ce soit journalier, que ce soit quotidien ou une fois par semaine. Enfin, ça dépend des disponibilités de chacun. Mais ça, c'est super primordial. Pourquoi? Pour qu'en fait, pour garder ce ciment, en fait, cette liaison dans le couple. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut toujours s'imaginer que le meilleur ami qu'on doit avoir ou la meilleure confidence, c'est notre mari ou notre femme. La personne avec qui tu as envie d'aller partout, faut que ce soit ta femme. Il faut vraiment, si tu veux que ton mariage, que tu aies une super entente avec ton épouse, et il faut que tu fasses en sorte qu'elle, enfin, que vous fassiez en sorte que vous soyez les meilleurs amis du monde en même temps que les meilleurs qui est d'amour. Pourquoi? Parce que, comme tu as dit tout à l'heure, l'amour, c'est quelque chose qui est fluctuant. Des fois, ça monte, ça descend. Puis, à partir d'un certain âge, ben, on n'est plus poussé par cette fougue. On est plus poussé par un respect et par une profonde amitié et un respect. Et donc, si on n'a pas cultivé ça dès le départ, ben, on le retrouve plus tard. Hein. C'est-à-dire, on se trouve avec une personne après 20 ans de mariage. Avec laquelle on partage plus grand chose, quoi, tu vois. Voilà.
Est-ce qu'on peut du coup pallier à ça? Parce que je pense que, à mon avis, hein, des personnes qui se sont mariées du coup jeunes et qui s'étaient pas posées toutes ces questions-là, et ça peut tout à fait s'entendre, je trouve que c'est quand même plus facile de se poser des questions quand tu as 30 ans et plus que quand tu en as 20, voire même quand tu as 35 et plus. Et ben, parfois tu t'es pas posé toutes ces questions-là, tu arrives après 20 ans de mariage et tu te dis, ah oui mince, j'ai pas vérifié si j'avais bien maintenu mon amitié au sein de mon mariage. Comment on fait? Comment est-ce qu'on Quelle solution on peut aider? Parce que ça me tient à cœur, quelle solution on peut donner à ces personnes qui sont dans cette situation-là? Parce que je me dis, c'est pas forcément fini. En fait, j'espère que non, je pense qu'il y a des solutions quand même, malgré tout.
Ben, dans les solutions, c'est ce que je dis, c'est en fait essayer de se trouver des moments où on va essayer de se redécouvrir. Ça peut être par un repas à la maison, ça peut être par une petite promenade. Il n'y a pas besoin d'aller faire
Aller.
tel ou tel resto, de
Ouais.
dépenser Non, en fait, la vie simple, enfin, ça c'est mon point de vue, hein, la vie simple, c'est la meilleure. C'est-à-dire des choses très simples qu'on partage à deux, où on sait qu'on va pouvoir, on va parler, on va s'échanger, on va se voir, on va discuter. C'est ce qui permet de revivifier, en fait, rajouter, en fait, de renouer avec son époux, même si, par exemple, on n'a pas fait attention à cultiver ça depuis le départ. Après, je vais rebondir sur une de tes paroles. Et un conseil que je donne plutôt et que j'ai pas voulu dire dès le départ, c'est que j'ai déconseillé aux personnes de se marier trop tôt. C'est-à-dire pourquoi? Parce que notamment, ben, enfin, que ce soit l'homme ou la femme. Pourquoi? Parce que l'idée d'un homme qu'on a, par exemple, si je parle au nom de la femme qui a 17 ans, qui a 18 ans, qui a 19 ans, l'idée de l'homme qu'elle a, c'est pas la, elle aura, ce sera pas la même idée de l'homme qu'elle aura à 25 ans ou à 24 ans. Pourquoi? Parce que on sait qu'avant 20 ans, ben, on va plus porter sur le kiff ou sur la personne elle est cool, la personne elle est gentille, etc. Mais on va pas voir l'aspect responsabilité de la personne. Et ce qui fait, c'est qu'à partir d'un certain moment, bah, si la personne n'a pas évolué en responsabilité, etc., on se retrouve, ben voilà, on s'est marié super jeune parce qu'on s'aimait bien, mais on se confronte à une personne à 25 ans. La personne, elle n'est pas encore responsable. On peut pas faire confiance, on peut pas lui faire confiance, etc. Et pareil pour l'homme, il faut que quand il décide de se marier, ben, qu'il décide d'avoir une image de sa femme dans 5 ans, 10 ans. En fait, ça sert vraiment à ça. Pourquoi? Parce que l'idée de la femme qu'il a quand il est trop jeune, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que quand il aura évolué dans sa vie, qu'il aura 24 ans, etc. quoi. Donc ça, c'est un super conseil que si je peux pousser les jeunes à prendre le temps d'évoluer et puis de faire évoluer aussi leur l'idée du mariage avant de se marier.
J'aimerais juste revenir sur une chose que tu as indiquée, que je trouve très belle, et je pense que ça peut beaucoup aider les personnes mariées comme les personnes célibataires, c'est réapprécier la normalité. Tu sais, tu disais les choses les plus simples sont les meilleures, mais je pense que dans tous les cas, même dans le mariage, déjà je te suis là-dessus, mais je pense que d'une manière générale, quel que soit notre caractère de base, on doit réapprécier la normalité en fait. Et j'ai l'impression que ce qui rend le mariage difficile, c'est-à-dire le fait de se marier ou le fait de rester marié, c'est que la normalité nous fait pas rêver en fait. La normalité, c'est bête, hein, mais faire la lessive, faire les devoirs avec les enfants, tout ça, c'est la normalité. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres. Mais il faut essayer à chaque fois de retrouver un peu ce petit, alhamdoulilah, cette gratitude dans la normalité.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Franchement, ouais.
Je te remercie, Ousmane. Franchement, c'était passionnant. Est-ce que tu veux rajouter un dernier message? Est-ce que tu veux nous délivrer un dernier conseil?
Oui, alors le dernier conseil que je pourrais donner, c'est que si on veut vraiment vivre un mariage passionné et toujours cultiver la flamme entre les époux, ce que je pense que il faut avoir une qualité, et cette qualité-là, c'est le sacrifice pour l'autre, et que ce soit du donnant-donnant. À partir du moment où on sait que la personne en face de nous, elle se sacrifie, elle fait tout pour nous, ben nous, ça donne envie de faire la même chose, et ce qui fait que ben on va se mettre dans un degré d'exigence envers l'autre ou pour l'autre, qui fait que en fait, ce sera toujours mieux. Voilà.
Waouh, quel mot de fin, c'est très juste et ça donne vraiment beaucoup beaucoup à méditer. Donc t'as raison, ce sera le mot de la fin, comme ça on pourra laisser nos frères et sœurs en islam méditer dessus. Et moi aussi je méditerai bien dessus parce que c'est très important la notion de sacrifice. Et encore une fois, c'est pas des valeurs qu'on prône beaucoup à notre époque. Vraiment, barakallahu fika Ousmane pour ton temps, pour ta science, pour tes conseils. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'en récompense grandement.
Amine, et je souhaite à tous ceux qui nous écoutent et aux autres qu'Allah leur facilite s'ils ne sont pas encore en projet de mariage, enfin, qu'Allah leur donne un bon époux, une bonne épouse, qu'Allah fasse que leur mariage continue et soit heureux. Et je m'en Allah Azzawajal et qui fasse que la finalité, c'est qu'on se retrouve tous dans son paradis à profiter de ce qu'il nous a promis.
Allahumma amin. Merci beaucoup Ousmane pour tes doigts. Je te souhaite la même chose. Beaucoup de bonheur, de sakina dans ton foyer, de la piété pour tes enfants. Et effectivement qu'on se retrouve tous au Jannatul Firdaus parce que c'est ça le goal, il n'y en a pas d'autre. Merci
Ouais,
beaucoup
c'est
Ousmane.
que voilà. Allez.
Salam alaikum wa
Je t'en
rahmatullahi wa barakatuh.
prie. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça c'est si vous avez une minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème. Abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leur doura. Qu'Allah Azzawajal vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.